Vous entendez ? C'est un sonar, le sonar d'un sous-marin qui s'apprête à précipiter près de 1200 hommes en enfer.
Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des espèces de groupes compacts. On s'était dit, si un requin s'approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera. Des fois ça suffit et le requin il fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Et alors ? Ah, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces.
Ce récit du chasseur de requins Quint, dans le film Les Dents de la Mer de Spielberg, est inspiré d'une catastrophe maritime bien réelle. En juillet 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, l'USS Indianapolis, un bateau militaire américain transportant près de 1200 hommes, est frappé de plein fouet par deux torpilles tirées par un sous-marin japonais dans le Pacifique. Le navire sombre en 12 minutes, jetant à la mer en pleine nuit près de 900 hommes. Les plus chanceux sont sur des radeaux, la plupart nagent avec et parfois sans gilet de sauvetage. Pour eux, c'est le début d'un long supplice. Durant 4 jours et 4 nuits, ces marins en perdition vont affronter la faim, la soif, les requins, mais aussi les coups de folie de leurs camarades en proie aux hallucinations. 317 d'entre eux survivront à cet interminable calvaire qui constitue l'une des plus meurtrières catastrophes de l'histoire de la marine américaine. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène dans le sillage de ces hommes que la guerre a plongés en enfer et qui, face à l'impossible, ont réussi l'impensable. Juillet 1945, 23h30. Quelque part, en mer des Philippines, à l'ouest du Pacifique, un navire de guerre américain avance dans la nuit, tout feu éteint pour éviter d'être repéré. C'est l'USS Indianapolis, 185 mètres de long. Avec ses 3 tourelles, ses 17 canons et ses 8 mitrailleuses, ce croiseur anti-aérien, fleuron de l'US Navy, s'est illustré à plusieurs reprises depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, dont l'issue semble désormais inéluctable. L'Allemagne nazie a capitulé 3 mois plus tôt. Le Japon se bat toujours. Il peut encore frapper et frapper fort. Les 1195 hommes de l'Indianapolis ne vont pas tarder à en faire la terrible expérience. Personne à bord ne se doute que le navire est actuellement dans la ligne de mire d'un sous-marin de l'Empire du Soleil Levant. Tapis sous la surface, des soldats sont en train d'ajuster leurs tirs. Les minutes de l'Indianapolis sont comptées. Dans sa cabine, le capitaine du navire américain, Charles McVeigh, 46 ans, dort à poing fermé. Peut-être éprouve-t-il un certain soulagement après avoir mené à bien la mission secrète qui lui avait été confiée. Une quinzaine de jours plus tôt, il avait dû appareiller toute affaire cessante.
Vers le 12 juillet, j'ai reçu des ordres indiquant que nous devions accomplir une mission spéciale.
Au cours de la nuit, vous embarquerez un chargement de petite dimension, mais d'importance capitale et ultra secret. Vous partirez demain matin à toute puissance pour Pearl Harbor. Vous continuerez sur Tinian, où votre cargaison sera prise en charge par d'autres. Vous ne saurez pas en quoi consiste ce chargement, mais il a plus de valeur que votre navire. Si vous coulez, il devra être sauvé à tout prix, dans un canot de sauvetage si nécessaire. Et n'oubliez pas que chaque jour que vous gagnerez diminuera la guerre d'autant.
Pendant toute la traversée, effectuée en un temps record, la mystérieuse cargaison, une volumineuse caisse et un petit cylindre métallique gardé jour et nuit, en avait intrigué plus d'un. Les rumeurs et les suppositions étaient allées bon train. Que transportait le navire avec autant d'empressement et de sécurité? Personne ne le savait à bord, pas même le capitaine Charles McVeigh. Les survivants de l'Indianapolis découvriraient plus tard la portée historique de leur voyage. En ce mois de juillet 1945, le vaisseau de guerre américain transportait des éléments importants de la bombe atomique qui allait raser la ville d'Hiroshima quelques jours plus tard. La mission de l'Indianapolis étant ultra secrète, le vaisseau avait navigué seul, sans escorte, à vitesse maximale, sous silence radio. Le 26 juillet, le précieux chargement avait été livré sans encombre à la base américaine de l'île de Tinian, à 2400 km au nord du Japon. Puis, l'Indianapolis avait reçu l'ordre de rejoindre une base navale américaine sur l'île de Leyte, aux Philippines. Pour effectuer cette nouvelle traversée de 2400 km, le capitaine McVeigh avait demandé à être escorté par un destroyer équipé pour la lutte anti-sous-marine. L'Indianapolis étant un vaisseau anti-aérien, il ne dispose pas de sonar pour repérer les sous-marins ennemis. Mais la demande du capitaine McVeigh avait été rejetée. Aucun destroyer n'était disponible. Selon l'officier de renseignement local, l'itinéraire ne présentait pas de danger particulier. Et pour minimiser les risques, McVeigh était tenu de naviguer en zigzag. Cette technique, censée rendre les bateaux plus difficiles à viser par d'éventuels sous-marins, avait perdu de son efficacité face aux dernières avancées technologiques, mais elle était toujours imposée par l'US Navy. Il aurait peut-être été plus utile d'informer le capitaine McVeigh que dans la zone qu'il s'apprêtait à traverser, moins d'une semaine plus tôt, un destroyer avait été coulé par une torpille japonaise et qu'au cours des derniers jours, la présence de sous-marins nippons avait été signalée. Ces informations pourtant cruciales n'ont pas été transmises au capitaine McVeigh avant son départ. Pour quelle raison ? Parce qu'elles avaient été obtenues en déchiffrant des messages cryptés japonais. Ces renseignements était maintenu confidentiel pour éviter que les Japonais découvrent que l'armée américaine savait décoder leurs messages. C'est donc inconscient de la menace que le capitaine McVeigh avait pris le départ pour les Philippines avec à bord beaucoup de très jeunes soldats. 250, âgés d'à peine 18 ans, n'avaient jamais mis les pieds sur un navire de guerre avant cette mission. L'équipage compte bien sûr aussi des hommes plus expérimentés, comme le docteur Lewis Hines, qui a participé à des batailles particulièrement meurtrières au cours des mois précédents. Sans doute appréhende-t-il la prochaine.
On nous a ordonné de nous rendre aux Philippines pour des exercices d'entraînement en vue de l'invasion de Kyushu.
En attendant d'être appelé sur de nouveaux fronts, en ce dimanche 29 juillet 1945, les marins de l'Indianapolis occupent leur soirée comme ils peuvent. Ceux qui ne sont pas de quart et n'ont pas encore envie de dormir jouent aux cartes, discutent ou chantent. Les plus fatigués se sont repliés sur leurs couchettes pour tenter de trouver le sommeil dans la moiteur étouffante de la nuit tropicale.
Capitaine, certains hommes se remettent à dormir sous le pont.
Laissez-les faire. La chaleur est infernale dans les carrés. Visibilité ?
De plus en plus médiocre, capitaine.
Suspension de la navigation en zigzag droit devant à pleine vitesse.
D'épais nuages masquent la lune. Dans cette obscurité, le capitaine McVeigh considère que le navire ne risque pas d'être repéré. Mieux vaut ne pas perdre de temps.
À vos ordres.
Droit devant à pleine vitesse.
Pleine vitesse, les gars.
Peu après 23 heures, alors que McVeigh plonge dans le sommeil, un sous-marin émerge à une vingtaine de kilomètres. Au même instant, la couverture nuageuse se déchire et laisse apparaître la lune, dont les lueurs blafardes viennent éclairer l'océan.
Probable navire ennemi, bâbord 90. Inclinaison droite, distance 10 nautiques.
Le capitaine Moshitsura Hashimoto, juché sur la plateforme du sous-marin I-58, voit se découper à l'horizon, dans l'axe de la Lune, une masse sombre. Il ajuste ses puissantes jumelles. Pas de doute, il s'agit bien d'un croiseur américain naviguant seul, sans escorte. Enfin, la chance semble sourire au capitaine Hashimoto, qui en 3 années et demie de guerre n'a pas franchement accumulé les exploits.
Plongée à profondeur périscopique immédiate. Rappelez au poste de combat.
Sur l'Indianapolis, les 20 marins chargés de surveiller l'horizon sous les ordres du jeune lieutenant Twibble n'aperçoivent pas dans la forte houle l'œil menaçant du périscope qui se rapproche lentement.
Attention ! Feu !
Six torpilles viennent d'être lancées en éventail à 3 secondes d'intervalle. Deux d'entre elles atteignent leur cible. Les yeux rivés sur son périscope, le capitaine Hashimoto observe quelques instants l'apocalypse qu'il vient de déclencher, puis il disparaît dans les profondeurs. Il est minuit passé de 5 minutes lorsque la première torpille atteint l'avant de l'Indianapolis et en un éclair sectionne la proue du navire. Des dizaines de marins sont tués sur le coup. Pour les autres, le cauchemar commence. Comme beaucoup, le docteur Heinz est réveillé en sursaut.
J'ai vu une lumière vive avant de ressentir la secousse de l'explosion qui m'a projeté dans les airs. Une torpille avait explosé sous ma chambre. J'ai heurté le pont et je me suis relevé. Puis la deuxième explosion m'a de nouveau renversé.
La deuxième torpille vient de percuter le navire, milieu tribord, quelques secondes seulement après le premier impact. Des réservoirs d'essence sont touchés, des rivières de flammes dévalent les coursives.
Ma chambre était déjà en feu. Je me suis dit, je dois foutre le camp d'ici. J'ai attrapé mon gilet de sauvetage et je suis sorti. J'ai rejoint mon voisin, Ken Stout. Il a dit,
allons-y !
Et s'est avancé devant moi dans le couloir principal. J'étais très près de lui lorsqu'il a crié,
attention !
J'ai soulevé le gilet de sauvetage devant mon visage et j'ai reculé. C'est alors qu'un mur de feu a fait ouf. Il m'a brûlé les cheveux, le visage et le dos des mains. C'est la dernière fois que j'ai vu Ken.
Beaucoup d'hommes grièvement brûlés tentent de gagner les extérieurs. Ils doivent se frayer un chemin dans une épaisse fumée irrespirable et opaque. Le capitaine McVeigh, éjecté de son lit par l'explosion, est déjà sur le pont.
Rapport ! Les communications sont coupées, capitaine. J'ai donné l'ordre de couper les moteurs, mais j'ignore s'il a été reçu.
Gardez votre calme, Cavano. Prenez le relais du lieutenant Standish. Faites un relevé des dommages.
À vos ordres.
Les circuits électriques qui alimentaient les systèmes de communication interne du navire ont grillé. McVeigh envoie un officier au PC de transmission pour qu'un appel de détresse soit lancé.
Ici l'USS Indianapolis, appel de détresse. Est-ce que quelqu'un me reçoit ?
Ça passe ?
Je l'ignore, capitaine.
Telle une créature blessée, l'Indianapolis poursuit sa route. Des étincelles jaillissent de sa cheminée. L'avant s'enfonce, l'eau s'engouffre par la proue déchirée, avec d'autant plus de force que le navire avance toujours. Le feu se propage, la fumée envahit tout. Des hommes, la peau ravagée par les flammes, se jettent à la mer dans de terribles hurlements. L'officier Casemour surgit des entrailles du navire, haletant, le visage méconnaissable, il informe le capitaine McVeigh de la situation.
Les compartiments avant prennent l'eau très rapidement, impossible de réparer. Nous sommes salement touchés, commandant. Voulez-vous abandonner le navire ?
Je lui ai répondu, non. Nous avions déjà subi un choc par le passé, que nous avions pu contrôler assez facilement.
Trop confiant en son navire, McVeigh ne peut se résoudre à l'abandonner 6 minutes seulement après avoir été touché par une torpille. Il est trop tôt pour s'avouer vaincu. L'officier Moore n'ose le contredire.
On peut peut-être y arriver.
Très bien. Retournez faire un point complet et revenez.
Casemour retourne dans les profondeurs du navire. Il n'en reviendra jamais. La proue s'enfonce de plus en plus, et dans un mouvement de bascule, l'arrière du bateau s'élève au-dessus de l'océan. Dans le même temps, l'Indianapolis prend de la gîte, comme disent les marins, c'est-à-dire qu'il s'incline sur le côté. Autrement dit, le navire est en train de pivoter sur lui-même dans le sens de la longueur et de la largeur. Sur le pont, les hommes s'agrippent à ce qu'ils peuvent pour ne pas tomber. 8 minutes après l'impact, le commandant en second, Red Flynn, rejoint le capitaine McVeigh sur le pont.
On n'arrivera pas à sauver le vaisseau. Il va sombrer.
Cette fois, McVeigh ne tergiverse plus.
Donnez l'ordre d'évacuer le navire.
Puisqu'il n'est plus possible de communiquer via les haut-parleurs, l'ordre doit être hurlé par les marins pour être transmis de proche en proche. Les hommes sautent les uns après les autres. Les plus terrifiés, paralysés par la peur, sont poussés par leurs camarades. Dans ce sauve-qui-peut général, la procédure d'évacuation n'est pas respectée.
Il y avait des jeunes qui sautaient par-dessus bord. Je leur ai crié de ne pas sauter sans gilet de sauvetage et de retourner près de la cheminée qui était juste derrière moi pour détacher le radeau de sauvetage, pour le jeter par-dessus bord avant de sauter.
Nous étions confrontés à quelque chose dont nous ne savions rien. Nous étions des enfants et nous n'avions jamais été préparés à cette situation. Nous ne savions pas comment abandonner le navire, ni comment survivre dans l'eau.
Sur les 35 radeaux de sauvetage de l'Indianapolis, 12 seulement sont mis à l'eau. Le vaisseau transporte plus de 2500 gilets de sauvetage, mais dans la précipitation et le chaos, tout le monde ne parvient pas à s'en procurer un. L'Indianapolis est à présent incliné à 90 degrés sur le côté. L'arrière du bateau se dresse à 60 mètres au-dessus de l'eau. Un homme tombe du sommet de la poupe et percute une des hélices du navire dans sa chute. Équipé d'un gilet de sauvetage, le capitaine McVeigh se cramponne au bastingage bâbord. Une vague vient l'arracher à son navire.
Je me suis retrouvé dans l'eau et j'ai tout de suite pensé « Bon, c'est la fin pour moi ». Je me suis retourné et j'ai immédiatement nagé loin des hélices qui descendaient.
Pour McVeigh et pour tous les marins encore à proximité du bateau, l'urgence est de s'éloigner du navire pour ne pas être aspiré dans les profondeurs quand la mer l'engloutira. En fuyant, certains hommes ont le temps de se retourner et d'apercevoir la poupe de leur navire s'enfoncer presque à la verticale jusqu'à ce que l'océan se referme sur elle. 12 minutes seulement ont suffi pour que l'USS Indianapolis disparaisse de la surface, entraînant avec lui près de 300 hommes dans les profondeurs du Pacifique. Pour les 900 rescapés qui sont parvenus à s'échapper à temps et qui dérivent à présent dans la nuit, une effroyable lutte pour la survie commence. Les naufragés de l'Indianapolis sont dispersés sur plusieurs kilomètres. Car entre ceux qui ont sauté à l'eau les premiers et les derniers à avoir évacué, le navire a continué à avancer tout en s'enfonçant. De nombreux hommes se débattent dans une épaisse nappe de mazout qui s'est échappée du bateau éventré. Le liquide noir et visqueux englue les visages. Le docteur Heinz aperçoit autour de lui plusieurs têtes ballottées par les flots.
Nous étions tous pareils. Du mazout noir partout, les yeux blancs et la bouche rouge. On ne pouvait pas distinguer le médecin des matelots. Tout le monde avait avalé du mazout et était en train de tomber malade. Bientôt, tout le monde s'est mis à vomir. À ce moment-là, j'aurais pu me cacher. Mais quelqu'un a crié
« Le médecin est-il là ?»
Et je me suis fait connaître. À partir de ce moment-là, j'ai été tellement occupé que j'ai tenu bon.
Le docteur Heinz nage d'homme en homme, rassure les plus paniqués, aide les blessés comme il peut. Ce groupe ne dispose pas de radeaux, mais la plupart des hommes portent des gilets. Ceux qui n'en ont pas doivent nager pour se maintenir à la surface ou s'agripper à un débris flottant.
Garde la tête hors de l'eau, on y est presque, tiens.
Parfois, un cri retentit pour signaler qu'un camarade, à bout de force, vient de se noyer. Heinz enjoint aux hommes de s'attacher les uns aux autres par leurs gilets de sauvetage pour ne pas être dispersés par les courants. Après plusieurs heures, certains commencent à grelotter de froid. À ces latitudes, l'eau est loin d'être glacée, mais la température reste une dizaine de degrés en dessous de celle du corps humain. L'hypothermie guette. Ailleurs, d'autres groupes se forment autour des quelques radeaux. Dépassés par la situation, les hommes ne savent quelle conduite adopter. Faut-il allumer des torches électriques sur les petites embarcations pour rassembler les hommes, ou cela risque-t-il d'attirer des vaisseaux ennemis ?
Nous étions effrayés à l'idée que les Japonais qui avaient coulé notre navire viennent nous tirer dessus dans l'eau.
Léo ! Est-ce que quelqu'un m'entend ?
Plus loin, le capitaine McVeigh dérive seul dans la nuit, assis à califourchon sur une caisse de pommes de terre. Quand soudain, il voit passer deux radeaux de sauvetage vides devant lui. Il se hisse à bord de l'un d'eux. Les pagaies ne s'y trouvent plus. Il entend alors une voix au loin et crie dans sa direction. La voix lui répond.
Capitaine McVeigh ?
Oui, qui est-ce ?
C'est Allard, monsieur.
Montez à bord !
Le quartier-maître Allard s'approche en nageant. Il tire deux jeunes marins couverts de mazout. Ils sont épuisés, quasiment inconscients. McVeigh et Allard les allongent sur l'un des radeaux et s'installent sur l'autre après avoir solidement attaché les deux embarcations. Un long silence pesant s'installe.
Tout le monde était épuisé. Ces deux garçons qui étaient sur l'autre radeau n'ont pas bougé de la nuit et j'ai pensé qu'ils étaient probablement morts.
Le 30 juillet 1945, au matin du premier jour de dérive, lorsque le soleil se lève sur la mer des Philippines, le plus grand groupe de naufragés dans lequel se trouve le docteur Hines compte environ 400 hommes. Le capitaine des Marines, Edward Park, de sa voix forte et autoritaire, en prend la direction avec l'aide du médecin. Il décide d'utiliser un long filin de 30 mètres sauvé du naufrage pour former un anneau auquel il demande aux hommes munis de gilets de s'attacher pour que ceux qui n'en ont pas puissent s'y accrocher. L'idée est simple, mais elle va sauver des vies. À des centaines de mètres de là, un autre groupe de 300 hommes environ est mieux équipé. Ces rescapés se sont rassemblés autour de plusieurs radeaux, dont certains peuvent accueillir jusqu'à 20 personnes. Ils disposent de rations de survie et d'eau potable, ainsi que de filets flottants pouvant soutenir une cinquantaine d'hommes. Les débuts de ce groupe ont été chaotiques. Les naufragés se précipitaient en masse sur les radeaux, les submergeant jusqu'à les faire couler. Tout le monde se retrouvait à l'eau. Les radeaux refaisaient surface un peu plus loin et la cohue recommençait.
Votre attention maintenant! Écoutez-moi!
Calmez-vous!
Si vous n'êtes pas blessé et que vous êtes à bord d'un canot, plongez tout de suite! Les canots sont réservés aux blessés et aux officiers! Apportez les provisions sur le canot où je me trouve! Exécution!
Le jeune lieutenant Twibble avait eu du mal à se faire entendre. D'autres officiers, plus expérimentés, étaient venus à sa rescousse pour rétablir un semblant d'ordre. À l'écart de ces deux principaux groupes, plusieurs autres, plus restreints, dérivent seuls, comme celui du capitaine McVeigh, qui compte à présent 9 personnes.
Nous pensions tous que ce petit groupe était les seuls survivants de l'Indianapolis.
Quelle que soit leur situation, ces hommes, perdus à plus de 450 km de la première terre émergée, s'accrochent à un espoir.
Est-ce qu'on a lancé un appel de détresse ?
Oui, forcément. Ils savent ce qui s'est passé. Ils vont venir nous récupérer. On va nous sauver.
Un appel au secours a bel et bien été émis. Et il semble qu'il ait été reçu par plusieurs postes de la marine américaine aux Philippines. Un officier de garde à la base de Leyte a même pris l'initiative d'envoyer immédiatement deux remorqueurs sur la zone. Mais les bateaux ont été rappelés sur ordre du commodore de la base. Pourquoi cette décision ? Les Américains se méfient. Depuis plusieurs mois, les Japonais leur tendent régulièrement des pièges en émettant de faux SOS. La consigne a donc été donnée de vérifier les messages de détresse en envoyant une demande de confirmation au bateau prétendument en perdition. L'Indianapolis a sombré trop rapidement pour pouvoir confirmer son message. Celui-ci n'a donc pas été jugé crédible. Pour les naufragés, l'attente ne fait que commencer. À mesure que la journée avance, la chaleur devient infernale.
La nuit, il faisait froid. Le lendemain matin, le soleil s'est levé et a commencé à chauffer. Puis la chaleur est devenue insupportable. Alors on a commencé à prier pour que le soleil se couche, pour pouvoir se rafraîchir à nouveau.
Le moindre morceau de peau à l'air libre grille rapidement sous les puissants rayons du soleil, dont l'aveuglante lumière se réverbère sur l'eau et le mazout.
J'ai demandé aux hommes de nouer des bandes de leurs vêtements autour de leurs yeux, pour se protéger du soleil.
En plus de prodiguer ses conseils, le docteur Hines doit trier les blessés et les morts parmi les hommes qui flottent inconscients à la surface.
La seule façon de savoir s'ils étaient morts était de leur mettre un doigt dans l'œil. Si leurs pupilles étaient dilatées et qu'ils ne clignaient pas, je considérais qu'ils étaient morts. Nous retirions alors péniblement leur gilet de sauvetage et le donnions aux hommes qui n'en avaient pas. Au début, j'enlevais leur plaque d'identité. Je récitais le Notre Père et je les laissais partir. À la fin, j'avais tellement de plaques d'identité que je n'ai plus pu les garder. Aujourd'hui encore, lorsque j'essaie de réciter le Notre Père ou que je l'entends, je perds la tête.
La situation est moins dramatique sur les deux radeaux du petit groupe du capitaine McVeigh. Les deux jeunes matelots qu'il avait pensé voir mourir durant la nuit ont récupéré et se portent mieux.
J'étais le seul officier du groupe, et naturellement, j'ai dit ce qu'il fallait faire.
McVeigh distribue avec parcimonie les maigres rations de vivres pour qu'elles durent le plus longtemps possible.
Nous ouvrirons une boîte par jour. Aspergez-vous la tête avec de l'eau de mer. Laissez la brise vous rafraîchir. Mais n'en buvez pas, ça vous rendrait fou.
Il y a moins de discipline sur les radeaux du groupe de Tweeble, où certains ont tendance à s'accaparer la nourriture. Mais les naufragés ne sont pas les seuls à avoir faim. De plus en plus d'ailerons leur tournent autour. Attirés par le sang des blessés, les requins affluent. Parmi eux, des longimanes. Ces grands prédateurs qui vivent au large des côtes ont la réputation d'être particulièrement dangereux. Certains ont sans doute déjà sévi dans la nuit sans qu'on s'en aperçoive. Mais depuis que le jour s'est levé, la menace est bien visible.
Ils étaient gros. Certains d'entre eux mesuraient 4,50 m de long. Ils étaient là en permanence, se nourrissant principalement des cadavres. Dieu merci, il y avait beaucoup de cadavres flottant dans la zone.
Terrifiés, les naufragés tentent de faire bloc et serrent les rangs. Certains frappent l'eau pour dissuader les squales d'approcher. Mais cela ne suffit pas toujours. Certains requins finissent par délaisser les cadavres pour s'en prendre aux vivants.
Il semblait que les requins étaient plus dangereux en fin d'après-midi que pendant la journée. Ils se nourrissaient aussi la nuit. Tout était calme, et puis on entendait quelqu'un crier, et on savait qu'un requin l'avait attrapé.
L'angoisse s'installe, même pour ceux qui ne voient pas directement les squales.
Je n'ai vu qu'un seul requin. Mais quand la nuit tombait, des objets vous heurtaient dans l'obscurité et vous frôlaient la jambe et vous vous demandiez ce que c'était.
Qu'est-ce que c'est ? Il faut remonter ! Chacun d'un côté pour pas chavirer !
Et parfois, il s'agit bien d'un requin.
Lâche pas !
Un homme sur un filet flottant vient de se faire arracher la main par un squale. Voyant qu'il saigne abondamment, les hommes autour de lui redoutent qu'il attire d'autres requins. Au lieu de lui venir en aide, ils le chassent à coups de pied et à coups de poing. L'homme blessé n'a pas d'autre choix que de s'éloigner, nageant péniblement, sans gilet de sauvetage, vers une fin certaine. Au matin du deuxième jour, les groupes de rescapés se sont éparpillés sur plus de 20 km carrés. De temps à autre, ils voient passer des bombardiers américains très haut dans le ciel. Ils tentent de leur faire des signaux lumineux avec un miroir ou la lame d'un couteau. Mais à l'altitude où ils se trouvent, impossible que les pilotes les aperçoivent. Si tout s'était passé comme prévu, l'Indianapolis serait en train d'accoster à Leyte en ce 31 juillet. Mais personne dans la base américaine ne semble s'inquiéter de ne pas voir le bateau arriver. La mention « en retard » est simplement inscrite à côté du nom du navire. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, en pleine mer, des hommes à bout de force meurent les uns après les autres.
Ils sont tous morts. Standish, Cavano, il y a des requins partout.
Le capitaine des Marines, Edward Park, qui avait fait s'accrocher les hommes de son groupe en cercle, succombe à son tour.
C'était un homme très fort, athlétique. Je pense qu'il s'est tué d'épuisement en essayant de maintenir les gens qui dérivaient trop loin au sein de son groupe.
Pour les marins qui sont parvenus à s'extraire de la nappe de mazout, la tentation est grande de boire l'eau de mer tant ils ont soif. Le docteur Heinz essaie par tous les moyens de les empêcher d'ingurgiter cette eau salée qui ne ferait qu'aggraver leur état.
Je me souviens d'avoir frappé des hommes qui buvaient de l'eau pour essayer de les arrêter. Ceux qui buvaient avaient la diarrhée. Ils se déshydrataient encore plus, puis se mettaient à délirer.
Le troisième jour, des marins du groupe du docteur Heinz sont victimes d'hallucinations collectives.
Tout le monde s'est mis en file indienne. J'ai demandé « Que faites-vous ?» Quelqu'un a répondu « Docteur, il y a une île juste devant nous. Nous pouvons descendre à terre un seul à la fois pour y dormir 15 minutes. » Ils ont tous vu l'île.
La faim, la soif, l'épuisement, l'eau salée, le désespoir embrouillent les esprits jusqu'à la démence. À la nuit tombée, un homme se met à hurler, les yeux exorbités.
« Un japonais ! Ici, il veut me tuer !»
Puis il se jette sur l'un de ses camarades et le poignarde avec rage. La folie se propage. Des dizaines d'hommes s'entretuent à coups de couteau ou à main nue. Ce déferlement de violence aurait fait près d'une cinquantaine de victimes. Et il a pour effet d'éparpiller le groupe du docteur Heinz. La folie des hommes peut être plus meurtrière et dévastatrice qu'une horde de requins affamés. Combien de temps les derniers rescapés peuvent-ils encore tenir dans de telles conditions ? Au comble du désespoir, certains refusent de s'infliger plus longtemps ce supplice et se laissent couler, tandis que les autres s'accrochent aux souvenirs de leurs proches pour tenir et affronter leur quatrième nuit au milieu des requins. Quatre jours après le naufrage de l'Indianapolis, à la base militaire de l'Haïti, le croiseur américain ne figure plus sur la liste des bateaux attendus. Après deux jours de retard, sans chercher à en savoir davantage, on a supposé que le navire avait été missionné ailleurs au dernier moment, comme cela arrive régulièrement avec les vaisseaux de guerre. En ce 2 août 1945, aucun bateau, aucun avion ne recherche les naufragés de l'Indianapolis en perdition dans le Pacifique. Mais aux alentours de 11 heures, un bombardier bimoteur survole par hasard la zone dans laquelle le navire a sombré.
Garrison. Hey Garrison, j'ai encore une hallucination. Il est drôlement près cet avion, tu le vois? Dis-moi que tu le vois. Au secours! On est là! Par ici!
C'est un avion américain qui patrouille en vue de repérer d'éventuels sous-marins japonais. À l'arrière de l'appareil, le lieutenant Chuck Gwynn s'affaire à réparer une antenne défectueuse. Jetant distraitement un œil par le hublot, son regard est attiré par une longue traînée noire et luisante d'hydrocarbures.
Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai l'impression qu'on survole une nappe de carburant échappée d'un sous-marin japonais. Préparez-vous à bombarder la zone.
L'avion entame sa descente pour se rapprocher de sa cible. C'est alors que Gwynn est saisi d'un doute. Il croit distinguer ce qui ressemble à des têtes à la surface de l'eau. Pour en avoir le cœur net, il réduit sa vitesse et descend jusqu'à 100 mètres d'altitude. C'est bien cela. Il ne rêve pas. Il y a là des dizaines d'hommes couverts de mazout qui agitent les bras. En élargissant le cercle de ses recherches, Gwynn en dénombre de plus en plus.
Il y a des centaines d'hommes en bas, dispersés sur tout le périmètre. Prévenez la base.
Vélo, ici Parieur 17, nous survolons des centaines de naufragés. Je répète, nous survolons des centaines de naufragés.
Pourtant, aucun naufrage n'avait été signalé dans ce secteur. Alors qui sont ces hommes ? Plusieurs avions décollent pour se rendre sur la zone. Deux heures plus tard, le lieutenant Adrian Marx, aux commandes d'un hydravion Catalina, arrive sur place. Il demande par radio l'autorisation d'amerrir. Elle lui est refusée. La mer est trop mauvaise. Devant la détresse des hommes qu'il survole, Marx désobéit. Malgré les creux de 3 mètres, il parvient, non sans dégâts, à poser son avion sur l'eau. L'appareil est à présent trop endommagé pour redécoller, mais il va constituer un refuge providentiel pour les naufragés aux alentours. La carlingue est vite bondée, alors les autres rescapés s'installent sur les ailes en s'attachant à l'aide de parachutes pour éviter de glisser. Ils sont 56 à s'être agglutinés sur cet hydravion. Dès que Marx apprend que ces hommes font partie de l'équipage de l'Indianapolis, il transmet l'information par radio. Cette fois, les bases américaines de la région réagissent sans attendre. Dans les heures qui suivent, des avions quadrillent la zone, larguant des radeaux de sauvetage. Les navires les plus proches sont déroutés. Au total, 11 avions et 11 bateaux déployés sur des dizaines de kilomètres carrés participent à ce qui demeure à ce jour la plus grande opération de sauvetage de l'histoire de la marine américaine. Les groupes du docteur Heinz et du lieutenant Twibble sont retrouvés à une trentaine de kilomètres de distance. Les équipages des bateaux qui recueillent les rescapés sont saisis d'effroi devant l'état épouvantable de leurs camarades. Décharnés, couverts de mazout, souffrant de brûlures, de dénutrition et de déshydratation, la plupart sont incapables de tenir debout.
Je me souviens avoir dit « Je peux me relever !» Mais je n'y parvins pas. Quelqu'un me donna un verre ne contenant qu'une petite quantité d'eau. Je bus, et lorsque j'en demandai plus, il me dit qu'il ne fallait pas que je boive plus pour l'instant.
Les opérations de sauvetage se poursuivent toute la nuit. Un navire n'hésite pas à allumer un puissant projecteur pour éclairer l'océan, au risque d'être repéré par un sous-marin ennemi. Au petit matin, les deux radeaux du commandant McVeigh sont repérés à 200 km du lieu du naufrage. Leurs 9 occupants sont en vie. Quelques heures plus tard, le dernier rescapé sauvé, Gilles McCoy, est hissé sur le pont d'un bateau après avoir passé 112 heures sans boire ni manger. Sur les 1195 hommes de l'Indianapolis, 317 ont survécu à la soif, aux requins, à la folie et au désespoir. Une dizaine de jours seulement après le sauvetage, le 15 août 1945, l'empereur Hirohito capitule après que le feu nucléaire a anéanti les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Cet événement historique qui fait la une de tous les journaux ne suffit pas à éclipser la catastrophe de l'Indianapolis. Les familles des victimes réclament des explications. On cherche un coupable. Fin novembre 1945, le capitaine McVeigh est traduit en cour martiale. Plusieurs amiraux estiment ce procès injustifié. Sur les quelques 700 navires de guerre américains perdus durant la Seconde Guerre mondiale, McVeigh est le seul commandant à comparaître devant un tribunal militaire pour ce motif. Le capitaine est accusé d'avoir mis son bateau en péril en cessant de naviguer en zigzag pendant la nuit et d'avoir trop attendu avant de donner l'ordre d'évacuer.
À l'intention de la cour, que plaidez-vous ?
Non coupable.
Nous souhaitons faire comparaître le seul officier de sous-marin dont le témoignage soit pertinent puisqu'il était présent.
À la surprise générale, le capitaine Hashimoto, qui était aux commandes du sous-marin responsable du naufrage de l'Indianapolis, est appelé à témoigner lors du procès.
Silence dans la salle ! Silence dans la salle !
Selon vous, si le bateau avait navigué en zigzag, cela aurait-il changé quelque chose ?
Non. Nous étions trop près. J'ai fait tirer 6 torpilles. Il n'avait aucune chance d'en réchapper.
Malgré ce témoignage et le soutien de plusieurs rescapés, le 19 décembre 1945, Charles McVeigh est jugé coupable d'avoir mis en danger son navire en omettant de naviguer en zigzag. Il est dégradé et retiré de la liste des commandements à la mer. L'opinion publique a son bouc émissaire et l'US Navy évite de se pencher davantage sur ses propres manquements. La présence connue de sous-marins japonais dans la zone n'aurait-elle pas dû être transmise au capitaine McVeigh ? Comment expliquer les dysfonctionnements et erreurs de communication qui ont empêché de s'apercevoir que l'Indianapolis avait disparu ? De nombreuses questions resteront sans réponse. Il est tellement plus commode de faire porter la responsabilité de cette catastrophe à un seul homme. Très affecté par sa condamnation, McVeigh prend sa retraite. Rongé par une culpabilité qui ne le quittera plus, Il reçoit chaque année des appels et des courriers de menaces et d'insultes de la part de proches des victimes. À ce harcèlement continuel vient s'ajouter le décès soudain de sa femme en 1961, puis de son petit-fils 4 années plus tard. En 1968, Charles McVey met fin à ses jours après avoir reçu une ultime lettre des parents d'un marin l'accusant d'avoir tué leur fils. Pendant des années, des survivants de l'Indianapolis vont mener un combat pour laver l'honneur de leur ancien commandant. Il faudra attendre octobre 2000 pour qu'une résolution du Congrès des États-Unis, signée par le président Bill Clinton, blanchisse complètement le capitaine McVey. L'année suivante, l'US Navy reconnaît à son tour officiellement l'innocence du malheureux commandant en effaçant de son dossier militaire toute mention de culpabilité. 33 ans après sa mort, 56 ans après avoir été injustement condamné, le capitaine Charles McVey est réhabilité. L'épave de l'USS Indianapolis a été retrouvée en août 2017 en mer des Philippines. Elle gît à 5500 mètres sous la surface. Naufragé, une histoire vraie, est un podcast original de France Inter.